pour que la communauté comprenne qu'il s'agit d'une préoccupation croissante et critique pour la sécurité de l'Internet. Comme je l'ai déjà mentionné, le fait d'avoir de plus en plus de larges bandes, une largeur de bande supérieure et des centaines de milliers de serveurs host, la personne qui effectue une attaque compromet le système en entier et cela augmente. Nous avons analysé plusieurs questions de conception et de mise en œuvre. Nous avons formulé plusieurs recommandations, non seulement à l'ICANN, mais aussi aux opérateurs de l'infrastructure de l'Internet et aux fabricants aussi, pour qu'ils puissent adopter des actions spécifiques. Je veux préciser que la recommandation numéro 1 a été adressée spécifiquement au conseil d'administration de l'ICANN pour voir ce que l'ICANN pourrait faire potentiellement pour aborder ce problème. Les autres 5 recommandations sont adressées aux unités constitutives des multiples parties prenantes de l'ICANN parce que cela a trait davantage aux recommandations que l'on fait aux fabricants de ces dispositifs et aux opérateurs de réseau. Et cela n'est pas quelque chose sur laquelle l'ICANN a une influence spécifique, mais nous considérons qu'il nous faut faire cette recommandation pour que la communauté multipartite puisse collaborer pour la mitigation, pour la réduction du problème. L'ICANN doit faciliter un effort comprenant toute la communauté pour réduire le nombre de résolveurs ouverts et la possibilité de limiter le spoofing en réseau. L'une des questions a été d'essayer de déterminer combien de réseaux au niveau global permettent le spoofing pour créer la prise de conscience et nous aider à en trouver une solution. Il y a des techniques qui sont bien connues d'ailleurs. La recommandation numéro 2 indique que tous les opérateurs de réseau doivent adopter des actions immédiates pour prévenir le spoofing des adresses au niveau du réseau. L'un de mes collègues a créé un acronyme génial pour essayer de sauver l'Internet et la validation des sources d'adresses. Par la suite, les opérateurs de serveurs récursifs du DNS doivent agir immédiatement pour assurer et ou pour protéger les serveurs ouverts et récursifs du DNS. Il y a certaines sociétés qui fournissent ces services, mais il y a aussi, qui sont au courant des différentes techniques à adopter au cas où il y aurait ces attaques d'amplification. Il y a beaucoup de dispositifs qui travaillent avec ces serveurs ouverts et récursifs depuis n'importe où, et cela peut être utilisé par n'importe qui. Voilà donc, de là surgissent les consultations. Quatrièmement, les opérateurs des serveurs faisant autorité du DNS doivent soutenir l'effort pour étudier et limiter les réponses. La recommandation numéro 5 établit que les opérateurs du DNS doivent mettre en place des processus opérationnels pour garantir que le logiciel du DNS soit mis à jour régulièrement et se communiquer avec leurs fournisseurs de logiciels pour qu'ils soient au courant des dernières nouvelles. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à utiliser des versions très, très anciennes de logiciels et cela, c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que les gens ne mettent pas à jour le logiciel du DNS périodiquement. Et pour finir, il y a une recommandation critique. Les fabricants et ou ceux qui configurent les CPE, les routeurs que l'on utilise dans les foyers doivent adopter des actions immédiates pour protéger ces dispositifs et assurer ou garantir qu'ils puissent être mis à jour. En général, on paie $50 par an. Et on connecte ces dispositifs qui sont utilisés jusqu'à ce que dans l'année ou pendant l'année, il faut le remplacer par un nouveau dispositif. Le problème, c'est que pas mal de ces dispositifs ont des problèmes de sécurité et peuvent affecter les serveurs du DNS. Nous avons formulé ces recommandations parce que l'ICANN a une communauté multipartite et nous voulons que les fabricants prennent conscience qu'il leur faut arranger leurs équipements. Il faut tenir compte des capacités du DNS pour que ces équipes puissent fonctionner avec les serveurs récursifs et ouverts du DNS et que le logiciel puisse être mis à jour. Très bien. Voilà, j'ai fini ma présentation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Patrick Folstrom mentionne qu'il faut, on va aborder toutes les questions que l'on va poser et puis on va continuer avec notre exposé. Patrick Folstrom, il y avait une question d'un participant à distance. Oui, c'est une question de Steve Metallit, la session 4.2 du document 065 indique que l'on fait des attaques qui ne répondent pas à des consultations d'amplification. Cela veut dire qu'il y a des domaines qui ont identifié des parties ou des attaques d'amplification. Cela crée les mêmes risques ou le SSA considère que cela crée les mêmes risques. Patrick Folsom prend la parole. Vraiment, je n'ai pas bien compris de quelle section s'agit-il. C'est la section 4.2. Vous voulez que je vous montre la question? Ce sera peut-être mieux pour vous. Marika Keo répond. Si j'ai bien compris la question, pourquoi on fait la mitigation au lieu de bloquer tous les noms de domaine? Le problème, c'est que l'on pourrait bloquer des consultations légitimes. Alors, le risque est d'éliminer des consultations légitimes. Et nous ne voulons pas, justement, courir le risque d'éliminer ou de bloquer des questions légitimes. Un participant prend la parole. Ce n'est pas une question technique. Le fait de favoriser la bonne conduite peut aider. Mais quels sont les autres encouragements pour motiver les gens ou bien pour que les conduites appropriées soient obligatoires. Marika reprend la parole. Cela est difficile parce que il y a des gens qui doivent mettre en place cette technique de mitigation ou de réduction. Et cela ne les aide pas. Et s'ils ne travaillent pas de manière collective, ils vont voir qu'à un certain point, leur société ou leur environnement sera susceptible de la situation. Ils ne pourront pas accéder à l'Internet parce que le trafic est excessif. Il faut comprendre qu'il faut travailler de manière connective parce que cela est mieux pour la stabilité et la résilience de l'Internet. Du point de vue du cadre de réglementation, je crois qu'il est vraiment que cela est vraiment difficile. En Finlande, c'est intéressant de voir ce qui suit. Je parlais aux opérateurs de réseau de la Finlande et je leur ai dit « Comment avez-vous ces filtres anti-spoofing qui sont si efficaces ?» Et ils nous ont dit « Eh bien, parce que notre entité de réglementation recommande cette pratique. » Mais comment faire alors ? Ed Lewis prend la parole. Je Patrick Folstrom. S'il vous plaît, nous avons des interprètes, alors parlez lentement. Ed Lewis. À chaque fois que vous recommandez le conseil d'administration de faire des contrôles, vous augmentez le coût pour les opérateurs. Cela veut donc dire un coût supérieur pour les opérateurs actuels. Cela n'est pas un encouragement, au contraire, pour mettre en place ces contrôles. Et je signale cela pour signaler ou mettre en exergue ce que l'orateur précédent a dit. Marika, voilà, il faut voir de manière collective comment avoir les encouragements appropriés parce que clairement, pendant les 10 dernières années, on n'a pas travaillé très bien là-dessus. Un orateur qui ne s'identifie pas prend la parole. Les recommandations m'ont mentionné certains types de limites. Pardon, je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Manet. Microsoft va donner son soutien à ces limites dont vous parliez. Quelles autres recommandations pouvez-vous faire aux fournisseurs de logiciels, c'est-à-dire à ceux qui vendent le logiciel, à ce niveau?
Merci, c'est Marie Kakeo qui prend la parole. Nous avons le rapport, je ne peux pas parler au nom de tout le SS5, mais je peux en parler à cet égard avec vous. La personne responsable de la participation à distance a deux questions de plus. Nous avons une question de Sid Metalitz par rapport à votre question précédente. Ma question est la suivante. Ma question ne se rapportait pas à la recommandation 4 sur les limites des taux, mais pour la limitation des consultations connues ou qui sont des consultations abusives ou d'usage abusif. Cela se rapporte à la recommandation 3C. Patrick Folstrom prend la parole. À vrai dire, il y a une combinaison de limitation du rythme ou du taux et du blocage des consultations. Comme Marika l'a dit, une bonne partie de ce que nous voyons est lié à des sources légitimes et à des consultations ou de requêtes légitimes. Donc, si on limite le taux ou le rythme, on fait de manière appropriée les choses pour pouvoir comprendre quel est le sous-ensemble de requêtes ou de consultations qu'il faut limiter et dont le taux ou dont le rythme ou le débit doit être limité. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de consultation ou de requête légitime qui puisse être éliminée. Ce n'est pas une question de noir ou blanc, mais une combinaison des deux facteurs. La personne responsable de la participation à distance parle. Nous avons une autre question d'un participant qui s'appelle Zer, qui demande ce qui suit. Zer dit, dans la recommandation 5, ne pourrait-on pas inclure la recommandation suivante, que le logiciel du DNS soit mis à jour automatiquement. Mary Kakeo prend la parole. Je crois qu'au point de vue de la mise à jour automatique, nous n'avons pas besoin de faire ce type de recommandation. Parce que, enfin, pourquoi encourager pourquoi encouragerions-nous les gens à mettre à jour leurs logiciels? Nous savons que les sociétés, les entreprises ont des politiques particulières pour la mise à jour et les tests sur les logiciels. Nous voulons avoir la fonctionnalité pour la mise à jour du logiciel, mais non pas recommander la mise à jour ni exiger aux gens de faire cette mise à jour de façon automatique. Je m'appelle Brisman, je parle au nom de Comcast. L'une des personnes dans le public a parlé à propos du DNSSEC et de RPC. Je crois que RPC est un outil utile suivant l'environnement, mais comme vous êtes en ligne avec le DNS, là, on interrompt le DNSSEC et on ne peut pas faire la validation. Nous avons vu aussi la question des problèmes avec les équipements dans les installations des clients. Et nous avons parlé de ce thème avec plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement que les gens conservent le software pendant très longtemps. on envoie des versions de DNS, Mask et de HTTP qui ont enfin une ancienneté très importante. C'est un problème aussi. Malika prend la parole. Je vais dire tout simplement que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ceci, il y a un projet qui fait allusion à plus d'un million de résolveurs, de serveurs ouverts qui existent. Il est donc très difficile d'identifier cela. Nous parlons de 30 millions de résolveurs et c'est trop. Patrick Falstrom prend la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il s'agit d'une question de Ralph qui est dans la salle de chat. Que fait-on pour s'assurer que les versions anciennes du logiciel du DNS se mettent à jour? Est-ce qu'il n'y a pas là un vide important? Qui devrait résoudre ce problème, à votre avis? Patrick Falstrom prend la parole. Je crois que nous savons tous que nous assurer de ce que tout le monde met à jour son logiciel ne marche pas, ne donne pas de résultats. Comme nous l'avons dit auparavant, il y a parfois des gens qui veulent avoir une nouvelle version du logiciel pour avoir une nouvelle version du navigateur ou une nouvelle résolution de vidéo. Et c'est là qu'ils améliorent le système d'exploitation. Et nous voyons qu'ils ont une nouvelle fonctionnalité. Mais nous savons que la discussion continue par rapport aux versions les plus anciennes des systèmes d'exploitation. Et ça, sans vouloir en parler exactement rien. Sur Microsoft XP, il y a des discussions. Il y a beaucoup de personnes qui c'est une version très ancienne du logiciel, mais il continue à exister. Et c'est très difficile de gérer cette question. Microsoft et d'autres travaillent de manière acharnée pour que les gens fassent la mise à jour, mais c'est très difficile d'y parvenir. Mais comme nous l'avons dit dans notre rapport, nous parlons non seulement des dispositifs dont les gens sont équipés dans leur laptop ou dans d'autres équipements, il peut y avoir des résolveurs ouverts, comme Marie l'a dit, et d'autres personnes du public aussi. Et on a vu aussi qu'il y a des mémoires flash et des téléphones portables ou des clé USB pour les laptops qui comprennent ou qui incluent les résolveurs. Et cela porte atteinte aussi ou a un effet sur les consultations dans l'interface upstream. Si nous avons en Suède un fournisseur de téléphonie mobile qui a distribué des millions de cela avant de se rendre compte que cela représentait un problème. Par exemple, il arrive aussi, et c'est Marika qui a pris la parole, il y a beaucoup de dispositifs dans la maison qui ont des logiciels. On peut changer les couleurs, par exemple, pour les lampes. Je peux vérifier sur mon iPad, sur mon téléphone et sur Internet toutes les choses. Donc cela m'inquiète. Parce que si nous avons accès à l'Internet, il faut que je m'occupe du DNS et je n'ai pas le temps de vérifier la mise en œuvre au DNS. Mais je vois que tout ceci ajoute ou accroît l'importance du problème. Je m'appelle Alex Deacon. Je voulais poser une question complémentaire par rapport à la question de la limitation du taux dont vous parliez tout à l'heure. Vous parliez de la limitation d'un débit. En quel sens? Au sens du DNSSEC, RPC. Alors, ma question est peut-être celle-ci. Quel est l'effet de la limitation du taux sur le DNSSEC? Il n'y en a pas? Aucun effet. OK. Je crois que la mise à jour ne représentera aucun avantage ni désavantage pour le DNSSEC. Je pense que cela n'a aucune interférence sur ce contrôle. Nous avons aussi une question de Ralph qui est dans la salle de chat. Je parle de Vint en particulier avec des installations qui sont très compromises, qui sont altérées partout dans le monde, enfin, dans beaucoup d'endroits dans le monde, et qui causent des problèmes. Il semble bien qu'il n'y ait pas de propriétaire en ce sens-là. Ou l'on a des fournisseurs, ou il y a quelqu'un dans le système opérationnel. Mais le software, le logiciel de DNS semble être orphelin. Est-ce que l'ICANN pourrait faire quelque chose à cet égard? Marika prend la question, prend la parole. C'est quelque chose à propos de l'ICANN, devrait faire quelque chose. Je ne veux pas faire de recommandations parce que je ne veux pas parler au nom de l'ICANN, mais au point de vue de la stabilité dans la vie du SSAC, je peux dire que l'ICANN a fait un travail merveilleux pour parvenir à la communauté externe. Cette diffusion externe aurait pu peut-être inclure des sensibilisations sur le fait que s'il en a des versions plus anciennes du logiciel, bon, mais de quel type de versions anciennes parlons-nous? Si c'est des versions anciennes du DNS, ça peut dater d'il y a 5 ans et tout fonctionne. Alors, quel est le problème de conserver cette version? Je crois que la question est de sensibiliser que il faut avoir comme une meilleure pratique les versions les plus à jour des logiciels et surtout pour le programme du DNS. Janice, encore une fois, une autre question qui n'est pas de type technique. Est-ce que ça dispose de ressources dont il a besoin, tenant compte de la charge de travail qui s'accroît, à mon avis? Je voudrais savoir si est-ce que ça doit faire des activités avant qu'un problème ne se présente et que l'on a besoin de ressources. Est-ce que vous en disposez? Patrick Falstrom prend la parole comme président du SSAC. Bon, la question des ressources est une question dont on débat au niveau interne, aussi bien qu'avec le personnel de l'ICANN, le personnel de soutien et le comité des finances. À vrai dire, après cette séance, nous allons avoir une réunion à ce sujet. Nous considérons en premier lieu que nous avons un très bon soutien de l'ICANN. Et je le dis d'entrée de jeu. Nous sommes prudents par rapport à nos demandes. Et je dois dire aussi que la plupart de nos demandes sont adoptées ou approuvées par le conseil d'administration et par le personnel de l'ICANN. Il semble donc que nous sommes en bonne position. Bien sûr, il y a toujours des choses dont on peut débattre, mais d'une façon générale, la situation de ce point de vue est bonne pour le SSAC. Si nous pouvons augmenter nos résultats ou notre production, bon, la question est un peu différente. Et ce SAC est formé de volontaires. Nous avons tous un travail à faire. Nous donnons notre temps. Nous avons du travail à faire ailleurs. En ce moment, il y a 3 personnes de l'ICANN qui nous donnent leur soutien en tant que personnel de l'ICANN dans notre comité. Chacune de ces personnes peut soutenir le travail de 2 groupes de travail chacun. Cela signifie que nous pouvons avoir 6 comités de travail en activité simultanée. Cela prend un certain temps d'élaborer un rapport ou de créer des produits, mais nous pourrions avoir davantage de soutien du personnel pour avoir plus de résultats ou avoir davantage de groupes ou de comités de travail en parallèle. La discussion avec l'ICANN, c'est que peut-être avec un soutien un peu plus grand du personnel, nous pourrions avoir 6 comités de travail à l'œuvre pour travailler de façon plus rapide et le personnel de soutien ne serait pas aussi fatigué lorsque nous arrivons à la dernière partie du rapport. Oui, bien sûr, ce serait bon d'avoir davantage de personnel de soutien en termes d'heures disponibles. Enfin, pas en ce qui concerne le nombre de personnes, mais ce travail qui est fait en parallèle. Bon, nous avons 40 personnes volontaires. La situation peut être difficile. Il est difficile pour nous de produire davantage par rapport à ce que nous faisons. Nous faisons 8 rapports par an. Si nous en supprimons tous les jours fériés, c'est 1 rapport par mois. Donc, c'est bien pour des volontaires qui essaient de donner un rapport de bonne qualité pendant que l'on fait le travail. Et il y a enfin un dernier facteur que je dois souligner. Cela concerne le fait que nous avons des volontaires. Nous n'avons pas de personnel proprement dit pouvant s'occuper des enquêtes ou des recherches ou des études. C'est pour cela que vous voyez sur nos recommandations que nous disons que nous recommandons à l'ICANN d'entreprendre des recherches et des enquêtes et c'est l'ICANN qui s'en occupe. Moi, j'ai participé personnellement à certaines de ces recherches et de ces enquêtes et on demande à la communauté de faire ces études-là. Nous, au sein de SSAC, nous estimons qu'il s'agit d'une bonne idée parce que cela rend possible de réunir toutes sortes de personnes pour faire ces recherches, des organisations individuelles qui sont plus préparées pour faire ce type de recherche, plus approfondie, plus détaillée, plus variée. Et ce sac a la possibilité de faire des commentaires sur les résultats de ses études. Nous sommes donc assez satisfaits du travail que nous avons fait jusqu'ici. Disons, si l'on tient compte de la constitution de notre comité, nous pouvons produire un tout petit peu plus. Mais d'autre part, je ne sais pas vraiment si ce serait utile. Parce que si nous considérons le nombre de rapports et de recommandations que nous émettons, vous allez voir que nos recommandations ne sont pas prises en compte aussi rapidement qu'on le voudrait ou qu'on penserait. Oui, Marilyn Cade prend la parole. J'ai une idée que je voudrais enfin considérer avec vous parce que pour voir si nous pouvons améliorer un tout petit peu la situation dans l'utilisation de vos rapports. J'ai eu la chance d'avoir reçu une formation technique très intensive lorsque je travaillais pour une société technologique il y a quelques années. Cette formation n'est pas mise à jour, mais elle m'a aidé à développer cette approche pour comprendre les questions techniques, pour comprendre un tout petit peu plus sur beaucoup d'autres choses. Et je connais beaucoup de personnes auxquelles je peux faire mes consultations. Mais je ne suis pas la personne moyenne dans la communauté d'affaires de l'ICANN. J'espérais que vous allez rire quand je dirai ça. Bon, heureusement, quelqu'un a ri. Vos rapports sont très riches d'informations, mais il y a une liste très brève de personnes, monsieur, tout le monde, qui peuvent participer au développement des politiques dans la communauté des utilisateurs, dans la société civile, et qui pourraient être à même de digérer toute cette information, de l'appliquer et d'en étendre la portée. Ce n'est pas une critique par rapport à ce que vous faites. C'est tout simplement un thème qui est lié à la manière dont on peut travailler avec les ressources supplémentaires données par l'ICANN. Et vous pourriez donc offrir un autre type de traduction, non pas au point de vue linguistique, mais au point de vue de la capacité de compréhension de cette information. Pour que les utilisateurs des petites entreprises ou des grandes entreprises puissent comprendre comment il faut appliquer les recommandations que vous formulez dans vos rapports. Le risque qui peut exister au cas où ils ne se serviraient pas ou ne mettraient pas en application ces recommandations. Il y a un secteur en particulier qui participe de façon très active à RSSAC. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas encore de secteur qui suive le rythme nécessaire pour cette participation. Je pense que ce n'est pas seulement les utilisateurs d'entreprises qui pourraient tirer un avantage de cette information, mais plus nous simplifierons la possibilité de connexion sur Internet, plus le risque sera grand. Je me suis entretenue une fois avec un fonctionnaire d'un pays qui doit avoir assurément la population la plus grande ou la deuxième, la plus grande des utilisateurs finaux. Et il m'a dit combien il appréciait quelque chose que le directeur exécutif précédent, quand on lui avait dit quel était le risque le plus important pour l'Internet, il avait dit c'est cette espèce de bulldozer, c'est-à-dire ces utilisateurs qui ne sont pas informés. Non seulement les utilisateurs qui se servent d'Internet, mais ceux qui n'ont pas l'information nécessaire. Et je crois que c'est important parce que cela concerne la manière de présenter votre information. C'est Patrick qui prend la parole.
Merci, Marilyn. Nous avons une réponse à ta question un peu longue. Je vais demander à Jim Calvin, notre vice-président, de t'expliquer ce que nous sommes en train de faire. Jim Galdring, merci Patrick, merci Marilyn. Nous venons de commencer le travail suivant. Nous travaillons avec le personnel des communications de l'ICANN dans notre comité. Nous menons des réunions en personne fréquemment et nous avons commencé à travailler sur la meilleure communication. Le produit ou le résultat du travail de notre comité SAC. En fait, Nous créons ou nous développons des résumés supplémentaires, plus de traductions. Et en fait, nous allons faire nos présentations et diriger nos présentations à un public spécifique. Nous allons créer des vidéos, nous allons faire des séminaires web, on va les enregistrer et ces enregistrements seront à la disposition du public. Tout cela est en cours. Mais l'idée, et pour répondre à votre question, l'idée est de chercher des meilleures opportunités de faire des tâches de diffusion et d'être plus visible dans notre travail. Vous allez commencer à voir ces initiatives. Je ne sais pas si vous allez le faire à Londres, mais pendant cette année, on va le faire. Patrick Folstrom, je veux ajouter que lorsque je me suis réunie avec les boursiers du programme de Janice, j'ai noté quelques questions spécifiques. Nous voyons comment produire ces documents, mais il faut aussi penser à la distribution. Alors, avec plaisir, Marilyn, je vais vous rejoindre pour voir comment faire la distribution de la manière la plus efficace possible. Parce que lorsque nous voyons nos rapports, nous voyons que ceux les plus efficaces sont ceux où l'on choisit un type de langage ou de rédaction adressé à l'organisation cible ou destinataire du rapport. Alors, s'il s'agit d'un rapport technique, le langage est technique, ça c'est bien. Si c'est un rapport adressé au gouvernement ou à une entité juridique, alors il faut adapter le langage comme il faut. Alors, je considère qu'il nous faut travailler dans le domaine de la communication pour pouvoir parvenir au reste des groupes destinataires de notre travail. Jim prend la parole. Je tiens à remercier le personnel, notre personnel qui nous donne du soutien. Steve Shane a été l'un des trois membres du personnel qui nous a donné son soutien. Et c'est lui qui nous a donné cette idée sur les communications, parce que au sein de l'ICANN, on travaille davantage sur la question, et c'est lui qui nous a présenté cette initiative. Et je tiens à le remercier publiquement. Patrick, Marilyn, vous avez d'autres questions à poser? Marilyn Cave, entre autres choses, je suis l'une des fonctionnaires de l'unité constitutive commerciale, alors je veux vous offrir ma collaboration pour faire une épreuve ou un essai pilote sur tout projet que vous voudriez envisager. Et nous avons des organisations dans le monde entier. Nous allons faire tout le possible pour vous aider à distribuer l'information et aussi pour vous donner notre feedback sur vos activités. Patrick Folstrom, je vois qu'on dit oui de la tête. Alors, nous acceptons votre suggestion avec plaisir. Julie, la responsable de la participation à distance, présente un commentaire. Les rapports du SSAC sont très utiles, mais dans mon pays, Bangladesh, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs parlant l'anglais. Alors, considérez de travailler avec les bureaux régionaux de l'ICANN pour distribuer vos rapports de sorte à ce que cette distribution ne soit pas aussi centralisée. Jim prend la parole. Autre chose que l'on fait, c'est de voir spécifiquement la question de la traduction et une meilleure distribution des documents dans les langues correspondantes. Nous ne nous attendons pas à traduire tous les rapports, mais si vous avez des besoins spécifiques d'accéder à un rapport en particulier et vous voulez la traduction, avec plaisir, nous allons recevoir votre demande et nous allons nous occuper de la question. En ce moment, nous pensons traduire les résumés exécutifs des rapports et de temps en temps traduire un rapport spécifique, mais aux effets des besoins de la communauté, si vous avez des demandes en particulier, dites-le nous et nous verrons ce que l'on peut faire par rapport à la traduction. Patrick Folstrom, combien parmi vous, vous utilisez en ce moment les services d'interprétation simultanée? S'il vous plaît, levez-vous. Merci. Je sais que nous sommes une communauté technique qui travaille normalement en anglais, mais je veux faire un sondage parce qu'il y a une limitation budgétaire. L'interprétation et la traduction sont chères. Alors, j'essaie de chercher un équilibre au sein du SSAC et chercher un équilibre entre les services. Je crois qu'il est important d'avoir des données à propos de la question. Maintenant, on nous dit que c'est plus important la traduction que l'interprétation dans notre travail, mais nous faisons toujours des recherches et nous faisons des sondages pour ne pas prendre des décisions erronées. Pour ce qui est des documents à traduire, certains rapports du SSAC ont un caractère informatif ou éducatif. Il y en a d'autres qui sont adressés aux opérateurs pour qu'ils modifient leurs opérations. Alors, peut-être pourriez-vous considérer différents publics. Lorsque vous créez les documents, il y en a qui peuvent être adressés à des organes de développement de politique, d'autres aux administrateurs des systèmes, etc. Patrick, merci. C'est un bon commentaire. Mais comme Jim l'a mentionné, si au moins nous pouvons traduire les résumés exécutifs de nos rapports et puis écouter la communauté, nous pouvons suivre cette approche. Si l'on publie un rapport en anglais et on nous dit que cela est très important, alors là, on peut nous occuper de faire les traductions parce que l'anglais est toujours la langue principale dans laquelle on publie toutes les données ou toutes les informations les plus importantes. C'est donc important pour nous de recevoir vos opinions et vos commentaires afin de déterminer quels sont les documents qui seront traduits. Il nous reste 3 minutes. Julie, s'il vous plaît, une question à distance. Julie lit la réponse de la question de Ralph pour ce qui est du conseil aux opérateurs de réseau du rapport de Maric. Il n'y a pas quelque chose au sein de la GNSO qui puisse être adopté avec l'unité constitutive des fournisseurs d'Internet. Il y a la coordination que l'on peut mettre en place au lieu d'attendre à ce que le conseil d'administration s'en occupe. Patrick, la GNSO a commencé à travailler de manière plus ordonnée. On fait un suivi des recommandations du SSAC et ils analysent quelles sont les recommandations sur lesquelles ils vont agir. Le conseil d'administration étudie aussi les recommandations du SSAC et d'ALAC et maintenant nous avons une bonne communication avec la GNSO. Je ne connais pas bien la terminologie, mais je sais qu'il y a un groupe de travail auquel il y a une liste où aussi bien moi que d'autres membres du SSAC nous participons et nous pouvons expliquer comment on est arrivé à ces recommandations. Alors, merci beaucoup de vos apports, de vos commentaires. Je crois que nous progressons de manière positive pour que nous puissions tous adopter les recommandations des différentes organisations de soutien et des comités consultatifs. Ceci dit, je vais clôturer cette séance. Je tiens à vous remercier de votre présence et vous souhaiter un bon retour chez vous. Merci.